L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Volant, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Volant. Volant, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Volant et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Nicolas Chabot, donc, qui est le vice-président de Tracker en Europe. Donc Tracker, c'est une boîte qui est spécialisée sur l'influence, mais qui est sur un segment qui est un peu spécifique parce que vous faites du Customer Influencer Relationship, ou on appelle ça comme ça ?
Oui, du Influencer Relationship Management.
Voilà, alors dit autrement ou dit en français, on va dire que c'est une plateforme qui permet de gérer les relations avec les influenceurs, on va dire, uniquement. Et on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps à travers un article que j'ai écrit. C'était en 2017 en tout cas. Et depuis, du coup, on a un peu discuté. Et un des sujets qu'on a abordé, que vous abordez en particulier avec Brian Solis, qui est un influenceur aux États-Unis et un chercheur, on peut appeler ça comme ça, c'est l'impact de l'influence sur les organisations. Donc à partir du moment... Enfin, c'est ce que vous expliquez en tout cas, c'est que à partir du moment où tu veux vraiment intégrer les influenceurs dans ta stratégie marketing ou communication et communication, ça implique, et vous avez listé ça en 10 points, des changements assez profonds dans ton organisation. Est-ce que tu peux expliquer ça? Enfin, déjà, peut-être le contexte général et après qu'on passe sur les 10 points.
Oui, bah écoute, déjà, merci de m'accueillir, Grégory, sur Volant. Et en effet, je crois qu'on a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de contenu sur comment les influenceurs changent un peu la communication des marques. Ouais. Mais ce qui nous a intéressé aussi, c'est de comprendre quand on passe de l'expérimentation, quand on passe de séries d'activités ponctuelles liées à des campagnes à vraiment l'intégration des influenceurs dans ma stratégie de marque. Mmh. Et on s'est aperçu, nous, chez nos clients, que ça crée de nombreux enjeux internes de transformation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de dire, mais en fait, ces sujets d'influence, ils font partie de la transformation digitale. Bien sûr. Et on a essayé de comprendre les 10 aspects principaux.
Parce que, effectivement, à l'origine, l'influence, c'était... Alors, pour beaucoup d'entreprises, ça a été... on va demander à une agence de trouver les influenceurs, de gérer la relation, parce qu'ils ont une relation qui est déjà construite avec eux, etc. Et en fait, aujourd'hui, on passe de plus en plus à des annonceurs qui gèrent la relation avec les influenceurs directement. Il y a toujours des agences, bien sûr, pour monter les opérations, mais il y a quand même cette relation qui se crée en direct. Donc c'est quoi les 10 points? Enfin, c'est quoi le premier point? On va commencer par le premier.
Écoute, sans ordre de priorité ou d'importance, le premier point qui nous a frappé, c'est un point autour des enjeux financiers.
Ouais.
On a remarqué que beaucoup de marques étaient organisées, leur budget était organisé autour de campagnes.
Ouais,
d'accord,
oui.
J'ai un lancement, j'ai un budget.
Oui.
J'ai une campagne, j'ai un budget.
Oui.
Entre hors campagne, hors lancement, j'ai plus de budget.
C'est vrai.
Et donc, quand on passe à un moment où on se dit, mais on va lancer des programmes qui vont aller au-delà des campagnes, qui vont durer dans le temps, qui vont potentiellement toucher à plusieurs produits ou plusieurs marques, mm-hmm. on se retrouvait dans un genre de vide budgétaire et cette incapacité à finalement prévoir
poche,
voilà, les poches.
Alors là, on parle pour les grands groupes. Hein,
on parle des grands groupes. Là, ouais. On va parler surtout aujourd'hui des grandes
groupes.
Organisations.
D'accord.
Donc, il y a un enjeu de transformation aussi du processus budgétaire lui-même, qui d'ailleurs ne rentre pas dans les cases traditionnelles de médias, de RP et des campagnes, qui souvent posent problème.
Ouais, c'est vrai.
Premier sujet.
Effectivement.
Simple, c'est simple.
C'est simple, c'est assez compliqué, mais c'est relativement, c'est simple à comprendre, on va dire. Le deuxième, c'est quoi ?
Le deuxième sujet, c'est un sujet qui est lié à la collaboration.
Ouais.
Et ça, c'est très important. Et Brian Solis l'a très bien identifié dans le rapport Influence 2.0 qu'il a publié avec nous l'année dernière. C'est que le marketing d'influence touche un certain nombre de départements. Mm-hmm. On souvent me demande, mais qui dans les entreprises s'occupe de l'influence ? Ouais. Et la vérité,
c'est très différent d'une
entreprise à l'autre. Et souvent, ça touche plusieurs départements. Ça va toucher les RP, parfois.
Mm-hmm. Après, ça va toucher les gens du social. Entre les services.
Ça va toucher le marketing, ça va toucher plusieurs marques, ça va toucher parfois les gens qui sont au customer service. Et très vite, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un problème de collaboration. Il y a un nouveau sujet qui est en train d'émerger très important, qui est le sujet de l'influencer experience. Mm-hmm. Quelle est l'expérience qu'ont les influenceurs avec mon organisation à travers l'ensemble de ces différents points de contact.
Parce que tu penses que ça peut... Alors, moi, ce que je vois souvent, c'est des entreprises qui, effectivement, c'est géré au RP et du coup, ils ont une vision nécessairement RP de l'influenceur, alors qu'effectivement, ça pourrait être une relation sur le produit ou sur le service client, t'en parlais. T'as vu des cas où des influenceurs sont touchés de manière différente par une même organisation ?
Bien sûr. J'ai vu des cas, par exemple, où les RP avaient des relations organiques, personnelles avec des influenceurs, mm-hmm. jusqu'à ce que l'agence média les contacte sur les mêmes opérations avec des projets de collaboration rémunérés.
Ah oui, effectivement. C'est gênant.
Voilà. Sans parler du cas assez facilement compréhensible de la même organisation qui est multimarque, mmh. et dans lequel il y a une compétition interne pour l'attention des mêmes influenceurs.
Ouais, ça j'ai vu ça effectivement. Non.
Voilà. Assez, tu vois, tu connais des cas assez.
Je connais des cas. J'ai pas cité. J'essaie de citer des cas positifs. J'essaie de pas trop citer les cas négatifs. Mais effectivement, j'ai vu ça dans des mêmes groupes où il y a plusieurs marques, une bataille à savoir qui va trouver le bon influenceur.
Les community managers, les réseaux sociaux, souvent ont leurs propres influenceurs. Mmh. Ils ne savent pas si ceux-ci sont déjà adressés par d'autres départements à l'intérieur de l'organisation.
D'accord.
Et je crois que ce sujet-là, c'est peut-être un des plus gros sujets des 10,
ouais.
parce qu'en fait, il va se développer, parce que ces influenceurs eux-mêmes, on va avoir des contacts dans mes magasins, quand j'ai des magasins. Mmh. Comment est-ce qu'ils sont accueillis dans le magasin ? Mmh. Ils vont avoir des contacts avec mon customer service. Mmh. Ils vont avoir des contacts avec mon département financier si j'ai une relation payante avec eux. Mmh. Quelle est l'expérience que j'offre à ces influenceurs à travers ces points de contact ?
Par exemple, une boîte comme Air France, pour le coup, et ça je le sais bien, c'est qu'ils ne différencient pas en fonction de l'influence. C'est-à-dire que si que tu aies de l'influence ou pas, la relation client sera la même. Ils essayent, bon, moi par exemple, je sais que je gère tout sur Twitter, mais ils feront pas de. Ils n'auront pas de relation privilégiée parce que tu as X followers. Ils font pas ce genre de choses. Donc, est-ce que tu crois que parce que tu es influenceur, c'est ce que se proposait Clout d'ailleurs à l'époque,
oui, c'est vrai.
De proposer une expérience différenciée en fonction de l'influence, est-ce que tu crois que ça c'est une bonne démarche d'entreprise ? En tout cas, l'entreprise doit pouvoir avoir le choix, doit pouvoir prendre la décision ou avoir la discussion en interne, mais est-ce que tu penses que c'est une chose à faire ?
Je suis d'accord qu'il y a un côté un peu cynique. À se dire que parce qu'on est influenceur, on va avoir un meilleur customer service. Et aussi parce qu'on a l'ambition d'avoir le meilleur customer service pour tous. Mm-hmm. Une fois qu'on a dit ça, on peut voir ça aussi de façon très positive. Et moi, je suis convaincu que pour les retailers qui se lancent dans ce type de projet, avoir la capacité d'accueillir les influenceurs dans leur magasin de façon personnalisée, d'avoir une relation locale qui s'intègre à l'ensemble du programme, c'est forcément un plus.
Oui, non, c'est nécessaire.
Tu vois, donc je crois qu'on peut voir ça aussi de façon positive. C'est-à-dire, comment est-ce que je construis avec ces gens-là qui ont une relation et un impact sur ma marque particulier, des expériences qui sont uniques et qui les rapprochent de ma marque. Et je crois que ce soit le customer service ou mes magasins ou différentes parties prenantes chez moi, à chaque fois, c'est une occasion de créer cette proximité.
Effectivement. Point 3.
Point 3. Global local.
Ouais.
À partir du moment où ces programmes sont sortis de petites activations ponctuelles et ont commencé à émerger, les gens qui gèrent les marques au niveau global ont commencé à s'y intéresser. À partir du moment où ils ont commencé à s'y intéresser, ils ont commencé à se dire, ben, il va peut-être falloir qu'on définisse un cadre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'Allemagne qui fait un projet envers les photographes, j'ai les États-Unis envers les gens de la tech, et on n'attaque pas les mêmes communautés, on n'a pas la même position, etc.
C'est déjà une stratégie un peu avancée, hein, de ne pas attaquer les mêmes communautés. Mais,
ce qui n'était pas, voilà. Et qui était, voilà. Mais pour le coup, ce n'était pas vraiment une stratégie, c'était chaque pays finalement qui avait la main. Ouais. À partir du moment où les responsables de marque, au niveau global, ont commencé à intégrer l'influence dans leur stratégie de marque, ils ont commencé, et ben, ils ont besoin d'avoir la visibilité, se pose la question de qui fait quoi, comment se partagent les responsabilités
entre le global, le local. Et puis entre les deux, il y a souvent l'Europe.
Il y a plein de niveaux de global, en effet. Il y a toutes, finalement, des rules of engagement qui n'existaient pas et qui doivent être définies.
Les règles d'engagement.
Voilà, les règles d'engagement.
J'essaie de traduire.
Donc ça, c'est aussi un sujet qui est nouveau, qui est en train d'émerger, qui pose problème parce qu'il n'est pas adressé aujourd'hui.
D'accord. Point 4.
Point 4. Point 4, c'est l'intégration des stratégies d'influence dans les stratégies de communication. Ça, c'est assez intéressant. On a présenté au Web Forum il n'y a pas longtemps le cas de Nissan UK, par exemple, qui a, lui, intégré sa gestion des influenceurs dans son département de marketing.
D'accord.
Et ce qui a permis d'intégrer des stratégies d'influence sur l'ensemble des activités de la marque tout au long de l'année.
D'accord.
Ça veut dire que tout à coup, ils ont eu accès au budget du marketing, et pas seulement au budget du département RP, on revient sur le thème budgétaire, mais ça veut dire aussi que sur tous les projets de la marque, les influenceurs ont été intégrés, et ça veut dire que quand Nissan, quand on le présentait, travaille tout son marketing digital au long du parcours client, d'accord, et il définit ça sur le la considération, là, il y a il y a ces différentes étapes qui sont travaillées pour le marketing digital, ils sont capables maintenant d'intégrer aussi tout leur programme d'influenceurs sur les mêmes critères et à tous leurs outils de mesure.
Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est au marketing que du coup tu peux avoir intégré les influenceurs en début de réflexion, c'est-à-dire réfléchir à où est-ce que je vais les positionner du développement produit jusqu'à la communication, tandis qu'effectivement si c'est que au RP, ça sera forcément ce que les gens détestent, la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire ils arrivent à la fin en disant oh, au fait, on a lancé ça, est-ce que tu peux faire un truc avec les influenceurs?
Voilà, exactement, t'as compris.
Ok, et ça c'est le fait que ce soit marketing, parce qu'on parlait tout à l'heure, je crois que c'était ton point 2, sur savoir où est-ce qu'on place les influenceurs justement, est-ce que c'est géré par les RP, le marketing, la com?
Dans le cas de Nissan, ça a été une avancée énorme. Ça leur a permis d'accéder à beaucoup de budget, ça leur a permis de travailler sur l'ensemble des programmes. Dans d'autres organisations, ils arrivent à résoudre ce sujet d'une autre manière. Donc il n'y a pas une seule solution, mais en tout cas le sujet est là.
Le sujet, c'est de les ramener en début de réflexion et pas de les mettre à la fin, c'est ça?
Voilà, et de pouvoir les intégrer quand, sur l'ensemble, quand on fait un plan de lancement de produits, comment est-ce que les influenceurs vont m'aider, comment ça s'intègre à mes programmes existants, et que ça fasse partie de la réflexion dès le début, pas comme tu l'as dit, je fais tout mon plan média et à la fin, oh, au fait,
by the way.
Les influenceurs.
Ouais. Ok. Alors, je ne sais plus à quel numéro on est.
On est au numéro 5.
Eh ben, vas-y.
Cinquième aspect qui est intéressant, c'est que on s'aperçoit que les départements achats commencent à s'intéresser au sujet aussi.
D'accord.
Pourquoi ils commencent à s'intéresser aussi au sujet? Parce que dans certaines organisations, le budget influenceur commence à devenir significatif. Et aujourd'hui, ce sont des prestations finalement nouvelles, assez peu définies. C'est un peu le Far West, finalement. Il n'y a pas vraiment de cadre. Et les grandes organisations sont en train de se poser la question, mais attends, quels sont les contrats que je dois avoir? Comment est-ce que la loi Sapin en France s'applique aux contrats que j'ai avec mes influenceurs? C'est une question aussi qui se pose. Et donc, on commence à rentrer dans tout un cadre, un peu législatif, et puis aussi d'optimisation de procurement. On a des grandes organisations qui sont multimarques, qui sont aperçues qu'elles avaient des contrats, des multiples contrats avec les mêmes influenceurs, avec des valorisations de prestations complètement différentes.
Ah oui. Ça, je savais pas.
Voilà. Et donc, comment est-ce que j'ai la visibilité de qui travaille avec qui? Parce que jusqu'à présent, comment ça se passe? C'était souvent des agences qui contractualisent au nom d'eux. C'était une série de petits accords. Il n'y a pas forcément de cadre contractuels annuels définis. Mmh. À partir du moment où ces sujets deviennent importants, et ben voilà, les départements achats commencent à s'y intéresser, commencent à se dire mais comment est-ce que je consolide la data, comment est-ce que je comprends qui travaille avec qui, quelles sont les règles que je dois donner, comment est-ce que je valorise les prestations des influenceurs, quelles sont les règles qu'on doit se donner comme entreprise. Mmh. Donc ça, c'est un nouveau sujet aussi qui est en train d'émerger.
Excellent. Point 6.
Point 6, c'est pas seulement les achats, c'est aussi legal et compliance.
D'accord, donc la partie droit, enfin, voilà. Comment on dit en français, oui, c'est droit.
Oui, la partie ouais, droit, légal,
légal
ouais. Je ne sais pas trop, excuse-moi pour les anglicismes. Mmh. Par exemple, un sujet qui est de plus en plus important, c'est tout ce qui est disclosure en anglais, ce qui est donc comment est-ce que les influenceurs annoncent
qu'ils sont rémunérés.
Des relations payées ou non payées.
Mmh. Mmh. Maintenant, Instagram, je ne sais pas si tu as vu, hein, mais oblige à la place du lieu, on met...
Ils ont développé cette fonctionnalité pour que ce soit, plus clair. Mais le problème, c'est qui la respecte, qui ne la respecte pas.
Bien sûr.
D'accord. Quelle est la responsabilité des marques dans le fait que les influenceurs respectent ou pas? Il y a eu les États-Unis sont pour le coup un peu plus en avance que nous là-dessus. Il y a déjà eu des condamnations de marques et d'influenceurs aux États-Unis pour non-disclosure. Je devrais te retrouver le nom de la des gens qui ont été attrapés par la police. Un peu symbolique parce que c'est assez peu, mais c'est devenu un sujet important.
Ce qui est certain, c'est que ça va être de plus en plus le cas.
Voilà, c'est devenu important. Donc ça, c'est important. Il y a évidemment avec GDPR des enjeux au-dessus du respect de la privacy et comment est-ce que ça s'intègre ça aux relations influenceurs,
la vie privée.
Voilà. Il y a aussi des sujets qui sont pas des sujets légaux, mais quand je parle de compliance, ça veut dire comment est-ce que je m'assure que les influenceurs avec lesquels je travaille n'ont pas de positions politiques qui sont pas alignées avec les activités de l'entreprise, qu'ils n'ont pas de langage à contenu violent, etc. Donc il y a vraiment énormément d'enjeux de critères aujourd'hui que les grandes marques demandent à leurs équipes de valider avant de pouvoir travailler avec des influenceurs. Il n'y a pas longtemps, en Angleterre, une des influenceuses qui avait été utilisée par L'Oréal sur la campagne True Match a fait des déclarations sur le racisme, en disant plus ou moins que tous les Blancs étaient quelque part racistes, qui a obligé L'Oréal à prendre position et à annoncer qu'ils se séparaient de cette coopération. D'accord. Alors que s'ils avaient en effet étudié le contenu de ces influenceurs, ils auraient su que...
D'accord.
Donc ça, c'est un exemple. Mais à partir du moment où ces collaborations entre influenceurs et marques commencent à être structurées et organisées, se pose un certain nombre d'enjeux qui sont des enjeux de clients à fournisseurs qui sont gérés par ailleurs, mais qui sont nouveaux sur ce sujet-là.
Ok. Et alors, il nous reste 3 minutes pour faire les 3 derniers points.
Alors... je vais vite. Sujet suivant, le rôle des agences.
Ouais.
Et à quel moment...
Agences prestataires.
Traditionnellement, c'est un sujet qui s'est beaucoup développé à travers les agences. Se pose la question, à quel moment est-ce que je peux laisser une agence gérer une relation influenceur au nom de ma marque? À quel moment est-ce que je peux sous-traiter une relation? D'accord. Et du coup, quel est le rôle des agences pour m'accompagner dans ma stratégie? C'est une question qui se pose aux marques, mais aussi éminemment aussi aux agences elles-mêmes. Comment elles se positionnent sur l'échelle de valeur?
Mais en fait, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, à l'origine, pour avoir une relation construite avec des influenceurs, il faut les connaître. Ça prend du temps. Les marques, elles veulent pas prendre de temps. Maintenant qu'elles commencent à avoir des équipes qui sont spécialisées là-dessus, ils prennent le temps. J'ai un ami qui était chez Cartier, et du coup, il est devenu vraiment ami avec un certain nombre d'influenceurs, donc c'est vraiment une partie de sa vie qui est importante. Mais c'est vrai que toutes les marques n'ont pas des gens qui s'occupent spécifiquement de ça, donc ils demandent aux agences. Mais c'est vrai que gérer, enfin passer de la relation, c'est un peu dommage.
Mais oui, et puis c'est pas facile s'il dit bonjour, je suis Cartier, ou bonjour, je suis une agence, je travaille pas seulement pour Boucheron, mais tiens, je travaille aussi pour Cartier, on fait un autre truc pour Cartier.
On sent bien que ça
pose problème. Ça nous amène d'ailleurs au point suivant, qui est les points autour des RH.
Ouais.
Parce que ces métiers sont nouveaux, ils demandent des nouvelles compétences. Ce sont des descriptions de postes qui n'existent pas aujourd'hui, des compétences qui n'existent pas. Et on voit aujourd'hui des rôles apparaître comme VP Influence Global, par exemple Coty. dans la beauté, un rôle de VP Influence Global.
D'accord.
Ce sont des nouveaux métiers. Et se posent vraiment des questions de quelles sont les compétences de ces gens-là. Beaucoup de marques recrutent des anciens influenceurs,
oui.
d'ailleurs, pour gérer les relations influenceurs,
bien
en
sûr.
Se disant, mais ils savent comment faire, ils savent comment engager.
Idiot, hein.
Ce qui n'est pas complètement idiot, même s'il y a parfois des attentes qui sont un petit
oui,
peu...
Oui. Bah, après, ça dépend...
Est-ce qu'il va maintenir son réseau ?
Moi, je suis dans cette situation, typiquement, j'ai été, ou je ne sais pas si j'étais influenceur, mais oui, j'ai été considéré comme, en tout cas, pendant un certain nombre d'années. J'accompagne les marques aussi, donc, mais parce que j'ai un bac, enfin, j'ai un passé marketing, enfin, ouais. c'est quand même mon métier à l'origine.
Ouais.
Mais voilà. Mais effectivement, tu peux avoir.
Voilà. Et ça, c'est intéressant, parce que ce sont des gens qui doivent avoir des grandes capacités analytiques, mais qui doivent aussi être capables d'avoir des fortes capacités relationnelles. Ce sont des gens qui sont capables de collaborer en interne, etc. Ouais. Des collaborations nouvelles. Avant-dernier point, l'impact sur le dashboard.
Ouais.
Aujourd'hui, dans le dashboard de CMO, comment est-ce qu'on suit la performance autour de l'influence? À quel moment est-ce que ça doit rentrer dans mes indicateurs et quels sont les indicateurs qui doivent être suivis? Donc ça, c'est un sujet...
Tu penses que les directeurs marketing, donc les CMO, s'intéressent à l'impact des influenceurs? En même temps, comme ils y mettent de plus en plus de budget, nécessairement...
Voilà. À partir du moment où on commence à travailler sur ces étapes-là, se pose la question, bon, très bien... Mais comment est-ce que je suis la performance de l'ensemble des programmes d'influence? Quels sont les indicateurs que je dois avoir sur mon dashboard?
Ouais. Et ça, c'est vrai que les KPI, enfin donc les facteurs clés de succès, enfin, les facteurs clés de succès.
Ah, toi aussi, tu te fais voir avec les exercices.
non, les indicateurs clés de succès, oui, c'est ça. C'est un sujet en tant que tel. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais quelles informations, parce qu'en fait, le digital, ça permet de tout mesurer, donc on ne sait jamais. Quel niveau d'information tu remontes à quel niveau hiérarchique parce que souvent il y a trop d'informations donc plus personne les lit, tu vois, c'est tout l'enjeu de savoir ramener les bons indicateurs pour que les gens qu'ils soient compréhensibles, qu'on puisse avoir une évolution et qu'ils aient du sens à un niveau élevé de l'organisation.
Oui, absolument. Qui sont d'ailleurs pas les mêmes selon les niveaux de l'organisation.
Ouais.
Et puis dernier point qui nous concerne directement, c'est l'impact de la technologie là-dedans.
Bien sûr.
C'est-à-dire que ce qui est génial avec les programmes d'influence, c'est qu'on peut travailler, on peut commencer à travailler sur Google et sur une Excel.
Ouais, bien sûr.
Et c'est comme ça qu'il faut commencer d'ailleurs. Mais à partir du moment où le programme commence justement à impacter l'organisation et à devenir stratégique pour ma marque, eh bien il y a des technologies qui arrivent et qui sont là pour aider à structurer ces processus-là et intégrer ces technologies qui ne remplacent rien, qui sont nouvelles, on est sur une première mise en œuvre. Ça crée des enjeux de changement, ça crée des enjeux d'organisation, ça crée des enjeux
qui
de transparence.
Qui a cette plateforme, qui décide de l'acheter, etc.
Voilà, sur quel budget. Et on commence à tiquer un peu toutes les. Comment est-ce que cette plateforme va m'aider justement à capturer pour mon procurement, de savoir avec qui je travaille. Ouais. Comment ça va aider mes différents départements à collaborer, comment ça va m'aider dans mon cycle de budgétaire, bref, comment la technologie va m'aider à résoudre finalement ces enjeux-là.
D'accord, génial.
Voilà, on est à 10.
Eh ben, on est à 10. et alors, j'ai une dernière question qui est ce podcast s'appelle Vlan. À qui ou à quoi tu claquerais la porte aujourd'hui?
Alors, je vais. On parlait un petit peu de dashboard indicateur.
Ouais, ouais.
Et je vais claquer la porte à un indicateur qui, à mon avis, introduit beaucoup de confusion sur ces sujets d'influence, qui est ce qu'on appelle le Earned Media Value, ou cette volonté d'essayer de valoriser les programmes d'influence en équivalent média.
Ouais.
Et pourquoi c'est absurde? Parce que la plupart des entreprises n'ont pas pour objectif de créer de l'équivalent média.
D'accord, ils veulent faire quoi?
Parce qu'en fait, généralement, ils veulent vendre des voitures, ou ils veulent vendre des parfums, ou ils veulent.
Mais on a beaucoup calculé, je pense que dans les années. Parce qu'en fait, les annonceurs, ils le comprennent ça, et ils comprennent ça bien. C'est-à-dire que pendant très longtemps, enfin, quasiment la majorité du temps du marketing en tout cas, on nous a appris que plus tu avais de visibilité, plus tu vendais, en fait. C'était assez. Mécanique. Donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'aujourd'hui ça marche pas.
Mais ce que je suis en train de dire, c'est que déjà cet indicateur qui est l'indicateur traditionnel des RP, hein,
oui, c'est un
où on était en train de mesurer mon carré dans L, exactement. Multiplié par 7, parce que chez le dentiste, il y a plusieurs personnes qui le voient,
ouais,
etc.
Exactement. Le taux de rotation.
Voilà. Où tout le monde sait depuis le début que c'est en plus ces valeurs calculées n'ont aucun sens.
Mais comme le GRP. Hein,
et à un moment où on arrive sur le digital, on est en train de revoir toutes les façons dont on mesure, faire revenir un indicateur. Qui est en fait un indice Parce que ça n'a aucun sens de mettre des dollars sur ces contenus-là. Et je crois qu'on s'éloigne vraiment du sujet. Le vrai sujet sur lequel il faut travailler, c'est quel est l'impact de ces contenus d'influenceurs sur mon parcours client.
D'accord.
Et comment ces contenus d'influenceurs et l'exposition de mes audiences aux bons contenus, aux contenus qui créent de l'engagement, aux contenus qui arrivent à changer l'opinion des gens, comment est-ce que ça a de l'impact sur mon parcours client? Et donc on se retrouve à intégrer ces contenus influenceurs dans tous mes modèles d'attribution. Et je crois que c'est là qu'est l'enjeu. Et c'est ça sur quoi on travaille avec nos clients. Comment est-ce que toutes ces données sociales, exposition au contenu d'influenceurs, vont pouvoir être intégrées dans ma DMP, dans mes modèles d'attribution, pour que je puisse cibler mes programmes et mes activations aux endroits où ils sont les plus impactants?
Large programme,
c'est ça l'enjeu.
Merci beaucoup Nicolas.
Merci Grégory.
Merci d'avoir écouté Volant, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.